VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Le Nigeria a choisi la démocratie, a déclaré le président élu Muhammadu Buhari ce matin après l'annonce officielle de sa victoire aux présidentielles nigérianes. L'ex-général a qualifié le président sortant Goodluck Jonathan d'adversaire valeureux à qui il tend la main de l'amitié. Pour sa part, M. Jonathan a demandé à tous les Nigérians d'accepter le verdict des urnes. Aucune ambition personnelle ne vaut le sang d'aucun Nigérian, a-t-il dit. Comment la tension perceptible avant et durant les élections a-t-elle été apaisée? La réponse de la seule femme candidate à la présidence, Rémi Sonaya, au micro d'Eddie Isango.
Ce n'est pas vraiment tout le monde qui est content. Mais il y a quand même un peu de soulagement dans le pays tout entier. Il n'y avait pas trop de surprises, hein, vraiment. Les gens savaient déjà que c'était le général qui allait remporter la plupart des États dans le nord et le sud-ouest, tandis que le sud-est, le sud-sud seraient plutôt pour le président Jonathan. Et c'est grosso modo ce qu'on a vu. Donc il n'y avait pas vraiment de grande surprise, étant donné que le général de l'armée Nigérian, on a raison de croire qu'il saurait mieux combattre ce groupe de terroristes, qu'il saurait mieux faire ce qu'il faut faire pour restabiliser le pays tout entier.
Rémi Sonaya, joint par Eddie Isango. Concernant la menace posée par Boko Haram, le président nigérien Mahamadou Issoufou, en visite aux États-Unis, estime que le groupe islamiste nigérian n'a pas d'avenir. On l'écoute au micro de Nicolas Pinault-Mardi.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douchi, la ville de Gachgar. Et ce matin même, on vient de m'apprendre que la ville de Malamfatri a été libérée par la coalition nigéro-tchadienne. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout à l'intérieur du Nigeria, au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier. Nous les avons repoussés à Bosso, à Diffa. Nos forces ont pris le dessus. Nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région du lac Tchad.
Le président Mahamadou Issoufou à Washington a noté qu'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de consolider par outils financiers et logistiques la force régionale de 5 pays qui luttent actuellement contre Boko Haram. Au Togo, les prochaines présidentielles auront finalement lieu le 25 avril au lieu du 10, un report annoncé la semaine dernière. À l'origine de cette décision, le mécontentement de l'opposition concernant la liste électorale qui sera donc révisée. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Lomé Bemba Naburema, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, pour le compte de l'opposition.
Depuis un certain nombre de temps, les partis politiques et surtout les candidats qui vont aller aux élections ne sont pas d'accord avec le fichier électoral qui ne paraît pas un fichier assez clair. Donc depuis longtemps, nous qui représentions l'opposition à la CENI, nous avons demandé à tous les experts qui sont passés ici de tout faire pour qu'on revoie le fichier électoral. Mais ça n'a pas été entendu jusqu'au dernier moment où l'ANC, ayant reçu quand même une copie du fichier électoral, a détecté qu'il y avait des doublons. A écrit à l'OIF pour demander de venir voir ce problème de doublons. Et le gouvernement aussi a demandé à l'OIF. L'OIF est arrivé et puis effectivement, on a constaté qu'il y a des doublons. Donc, on a demandé que ce fichier soit revu. Ils sont en train de travailler là-dessus. C'est à cause de ce fichier qui n'est pas propre qu'il faut qu'on a reporté les élections.
Quel est le travail qui s'effectue concrètement sur ce fichier en ce moment?
Vous savez, sur le fichier, on a constaté qu'il y a des gens qui ont plusieurs cartes. Il y a plusieurs personnes qui ont le même numéro. Il y a des gens qui sont dans la base de données qui n'ont pas d'empreinte digitale. Il y a l'inscription des mineurs.
Pensez-vous que le délai imparti permettra de mener à bien cette mission?
Il y a un groupe d'experts qui travaillent là-bas, de l'OIF. Et chaque candidat a envoyé un expert. Ils sont en train de travailler. C'est eux qui nous diront exactement combien de temps il leur faut.
Bemba Naburema, vice-président de la CENI du Togo, joint à Lomé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, le président américain Barack Obama a téléphoné mardi à son homologue congolais Joseph Kabila pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques en temps voulu qui respectent la constitution de la RDC. C'est ce qu'affirme un communiqué du département d'État américain, précisant que M. Obama a ajouté que les États-Unis resteraient aux côtés de Kinshasa tout au long du processus électoral menant au scrutin de 2016. Par ailleurs, dans l'est de la RDC, des notables du Katanga s'opposent au processus de mise en œuvre du découpage territorial. Disposition constitutionnelle qui prévoit notamment le passage du nombre des provinces, de 11 actuellement à un total de 26. Les notables katangais évoquent la pétition déposée à ce propos en mars 2009. Le point avec Narval Mabila à Lubumbashi.
Et reviennent à la charge par une lettre pour rappeler aux responsables des institutions du pays leur opposition au découpage sur base d'une pétition de 150 000 signatures déposée en mars 2009 dont certains ministres du gouvernement Matata Ponyo avaient signé, à savoir les ministres de la Santé et celui de la Défense, Maître Jérôme-Yves Kyungu.
La nouvelle lettre est en train de renforcer carrément la position des Katangais qui consiste à s'opposer catégoriquement au découpage de la province. Donc maintenant, nous rappelons au chef de l'État, au Premier ministre, aux deux assemblées, au président de la Cour constitutionnelle, que nous, Katangais, au moment opportun, en temps opportun, nous nous étions opposés au découpage de notre province. Donc, ils doivent en tenir compte parce que le découpage sera bientôt là effectif. Et donc, les Katangais ne se sentent pas concernés. Et cela étant, ils demandent carrément que les autorités des deux chambres respectent la Constitution, aussi bien que le président de la République et toutes les autres institutions.
L'opposition au découpage a été exprimée aussi à l'Assemblée provinciale le lundi 30 mars lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars au Katanga, Lubumbashi, Narval Mabila pour VOA Afrique.
Actualité américaine, le président Barack Obama a annoncé à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi qu'il levait le gel de l'aide militaire américaine au Caire, mise en place après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Des précisions avec Michel Joseph.
Le gel concernait des avions de chasse F-16, des missiles Harpoon et pièces détachées pour chars M1A1. Mais la Maison-Blanche ne certifie pas que l'Égypte a fait des progrès vers la démocratie. Elle soutient en revanche que les États-Unis maintiennent cette aide dans l'intérêt de leur sécurité nationale. Le président Obama a réitéré ses préoccupations au sujet de l'incarcération continue d'activistes non violents et des procès de masse, précisant que la liberté d'expression et de rassemblement reste un point central de la politique des États-Unis. M. Obama a aussi indiqué à Al-Sisi qu'il continuerait à demander une aide annuelle de 1,3 milliard de dollars pour l'Égypte au titre de l'assistance militaire.
La peine de mort est en recul sur la planète si l'on tient compte du nombre des exécutions. C'est ce qu'affirme Amnesty International dans son rapport pour l'année 2014. Mais dans plusieurs pays d'Afrique notamment, les condamnations à mort sont en nette hausse. Le point avec Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar, au micro de Jean-Roger Bion.
Nous avons vu aussi une forte augmentation de presque 30% des condamnations à mort. Ça représente pour nous une tendance assez inquiétante parce que nous voyons que certains États ont recouru à la peine de mort pour répondre aux menaces réelles ou présumées du terrorisme. Par exemple, Nigeria a condamné plus de 650 personnes à mort l'année passée, qui est 4 fois plus élevé que 2013. Et pareil pour l'Égypte aussi, qui a condamné plus de 500 personnes à mort l'année passée.
Alors, vous avez cité deux pays où la situation est critique en Afrique. Que faut-il faire?
Un des pays les plus critiques en ce moment, c'est le Nigeria, qui avait recommencé à utiliser la peine de mort en réponse au combat contre Boko Haram. Pour nous, nous voyons que ce n'est pas une mesure efficace contre Boko Haram. C'est ni juste, c'est ni efficace. Ça ne va pas aider le combat contre le terrorisme, mais en revanche, ça risque de créer les injustices qu'on ne pourrait jamais corriger.
Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et pour terminer, les pourparlers de Lausanne en Suisse sur le nucléaire iranien ont repris ce matin. Les négociateurs de l'Iran et des pays du P5+1, qui comprennent notamment les États-Unis, s'efforcent de parvenir à un accord cadre limitant le nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info